Jeudi 17 octobre 2019, surchoc.ca, c'est l'émission des apatrides anonymes, c'est la 14e édition.
Simon qui est à l'animation cette fois-ci pour cette édition-là. On a en studio Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Simon.
À la console, pour l'instant, on a Mathieu. On va le laisser travailler. Au menu, plusieurs choses. Donc, une revue des partis fédéraux par rapport à leur position, leur comportement face aux enjeux liés au Moyen-Orient. Des actualités internationales, la minute coloniale, l'agenda antiraciste. Et dans un instant, on va y aller avec Marie-Ève, qui aujourd'hui, cette semaine, a des bons coups, des mauvais coups. Donc, tu nous reviens dans quelques instants avec ça. Marie-Ève, on y va avec un bon coup ou un mauvais coup pour commencer?
On va commencer avec les bons coups parce que quand même, cette journée pluvieuse, on va essayer de se remonter le caquet, comme on dit.
On va avoir le caquet haut.
Et parce que, et non, détrompez-vous, en fait, tout ne va pas mal dans l'hexagone de Macron.
Ah bon, okay.
Petit indice d'où on s'en va. Alors, le 28 septembre dernier, Éric Zemmour, ce journaliste politique et essayiste français qui a longtemps travaillé pour Le Figaro et qui est aujourd'hui plus connu comme le polémiste préféré de la planète Réac, était l'invité d'honneur de la Convention de la droite, qui était une espèce de rassemblement de tout ce qui se fait à droite en France.
Un très bel événement.
Oui, oui, oui. Dans son discours, que plusieurs ont qualifié de violence à l'état pur, ce héros d'une génération, selon les mots mêmes des organisateurs de la Convention, a en fait livré une véritable déclaration de guerre à l'islam et à l'immigration. Là, j'entrerai pas ici dans les détails. Vous pouvez aisément trouver la vidéo de son intervention sur le web en tapant Éric Zemmour, Convention de la droite. Tout le discours a été filmé. Toujours est-il que ses propos ont heureusement déclenché un tel tollé que même Nutella a décidé de le boycotter. Le 3 octobre, au lendemain de la rentrée de l'émission Zemmour et Nolo, dont Zemmour, évidemment, est l'une des deux têtes d'affiche.
Nolo, c'est une mascotte enduite de Nutella, je pense.
Mais c'est vrai que ça porte à confusion. en fait, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que le compte Twitter Sleeping Giants, qui est un collectif de citoyens en lutte contre le financement du discours de haine, a apostrophé le groupe Ferrero, dont une publicité Nutella a été diffusée le soir du programme. Je cite, « En passant vos pubs sur Paris Première ce mercredi 2 octobre pendant l'émission de Zemmour, vous le cautionnez et le financez. Est-ce délibéré? » Ferrero a répondu en annonçant quelques jours plus tard qu'il ne diffusera plus de la pub lors de l'émission de Zemmour et Nolo. Je cite encore une fois, « À la vue des récents événements, nous avons demandé à Paris Première d'exclure ce programme de notre liste de diffusion. » Malheureusement, une telle bonne nouvelle ne vient jamais seule. Ainsi, l'un des artisans de la convention, Éric Teigné, que l'on pourrait appeler la Teigne, a répliqué sur Twitter en lançant un appel au boycott des produits de Nutella pour sauver son champion Zemmour.
Un boycott par-dessus le boycott.
Voilà, ah. Ça en fait des couches de Nutella, ça. Et donc, et je le cite encore une fois sur Twitter, « J'ai décidé de ne plus consommer de Nutella. Et vous, RT en masse pour appeler au boycott Nutella, c'est bien fait pour eux et en plus, c'est écolo. » Comme quoi, on peut toujours trouver plus de cons que Zemmour. Deuxième
Au Québec, on en a aussi.
On en a quelques-uns quand même. Un bon coup qui est passé inaperçu à la fin du mois d'août, je sais que ça date un peu, mais comme je dis, c'est ça, il est passé inaperçu, c'est la condamnation à 6 mois de prison ferme pour 3 militants de Génération identitaire et une amende salée de 75 000 euros pour l'organisation d'extrême droite. Petit rappel, le 21 avril 2018, Génération identitaire avait monté une vaste opération au col des déchets, de l'échelle, qui est un point de passage là, pour de nombreux migrants dans les Hautes-Alpes. À ce moment-là, une centaine de personnes vêtues du même manteau bleu s'étaient mobilisées avec deux hélicoptères, une banderole géante, une frontière symbolique matérialisée dans la neige par des grillages en plastique. Et dans les semaines suivantes, les fachos avaient annoncé des interceptions de migrants et des enquêtes sur les passeurs. Donc, évidemment, l'histoire n'est pas finie, puisque Génération identitaire et les trois condamnés font appel de la décision du tribunal. Donc, on verra ce qui en arrivera. Et finalement, autre bonne nouvelle passée sous le radar.
Trois bonnes nouvelles aujourd'hui.
Oui!
Wow!
Chapeau bien bas, mesdames et messieurs, à Pia Clamp, la capitaine des bateaux Luventa, puis du Sea-Watch 3, qui avait été poursuivie par la police, par la justice italienne pour avoir sauvé des migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Donc, Pia Clamp a refusé à la fin ou encore la médaille Grand Vermeil, soit la plus haute distinction de la ville de Paris. Je cite ici quelques lignes de son communiqué publié sur Facebook, dans lequel elle pointe du doigt le sort réservé aux migrants à Paris et fustige l'hypocrisie de la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, à qui elle s'adresse directement. Voici donc. « Vous voulez me donner une médaille pour des actions que vous combattez à l'intérieur de vos propres remparts. Simultanément, votre police vole des couvertures de gens... vole les couvertures des gens contraints de vivre dans la rue pendant que vous réprimez des manifestations et criminalisez des personnes qui défendent les droits des migrants et des demandeurs d'asile. Il est temps de dénoncer les honneurs hypocrites et de combler le vide par la justice sociale. » Alors, à toutes les Pia Clamp de ce monde, nous disons merci.
Merci, c'est bien envoyé. J'ai peut-être une petite parenthèse, comme ça, les migrants qui ont été chassés de squats qui ont été fermés, de dessous de viaducs qui ont été évacués avec des clôtures, sont rendus sur des accotements d'autoroutes et sur le bord du périphérique. C'est extrêmement dangereux. Il y en a qui ont reçu des camions là d'en face et j'exagère à peine.
Elle est belle, la France.
On revient dans quelques instants. C'était notre indicatif, je sais pas comment qualifier, mais un peu plus spatial peut-être. Donc, Simon au micro sur choc.ca, toujours l'émission des Apatrides. Merci Marie-Ève pour le premier segment. Merci à Mathieu à la console. Dans la thématique campagne électorale fédérale, on vous parle d'un rapport qui a été produit par le groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient, le CJPMO. Rapport qui s'intitule « Guide électoral 2019, évaluation des partis politiques sur 13 sujets liés au Moyen-Orient ». On y évalue le discours, l'attitude des 5 principaux partis politiques par rapport à une douzaine de thématiques, dont les ventes d'armes canadiennes à l'étranger, les abus du régime égyptien, les abus du régime saoudien, la crise au Yémen, l'islamophobie, si on pourrait en parler longtemps, mais surtout la plupart des 13 questions qui sont couvertes dans le rapport de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient recoupe beaucoup le conflit Israël-Palestine qui est décliné en plusieurs catégories, dont par exemple la campagne BDS et les colonies illégales. Tout ça résulte en une grille d'évaluation assez complète des différents partis politiques. Donc, c'est un exercice qui est intéressant en soi et qui permet d'en apprendre pas mal, mais qui permet surtout de faire une bonne synthèse de plusieurs questions d'actualité relatives au Proche-Orient. Questions qu'on balaye des fois sous le tapis après qu'il y a eu un petit buzz médiatique d'une semaine, par exemple, avec ce qui se passe en Égypte ou au Yémen. On n'en entend malheureusement pas tant parler que ça. Le Yémen, ça fait au moins 2 ans de guerre.
En tout cas, mettons que ça faisait pas partie des questions posées au débat des chefs.
Ben, moins que c'est qui les Québécois, puis c'est qui les laïcs, puis voilà, est-ce que Andrew Scheer approuve ou...
C'est qui Monsieur Pipeline?
Mr. Deny ou Mr. Delay, ouais, quelque chose comme ça. On aurait pu aussi aborder les positions des partis sur la Turquie et l'Iran. Moi, c'est des pays qui m'intéressent, mais j'imagine que pour des raisons éditoriales, on a dû faire des choix lorsque ce rapport-là a été rédigé. Dans un futur proche, j'aimerais aussi qu'on vous parle du mouvement de protestation algérien qui en finit plus de grossir depuis des mois. Je sais que l'Algérie, c'est pas au Moyen-Orient, mais bon, ça touche quand même aux grands enjeux arabo-musulmans. Commençons avec ce qui touche au conflit Palestine-Israël. Donc, un des thèmes qui est abordé dans le rapport, c'est le mouvement BDS. On constate...
Boycott des investissements, sanctions pour exactement. Les néophytes.
Oui, voilà, c'est ça. Merci de la précision. Donc, on constate qu'aucun grand parti fédéral ne soutient ce mouvement-là ouvertement. Mais du côté du Parti vert et du NPD, on appuie certaines formes de sanctions et de désinvestissements, alors que libéraux et conservateurs n'hésitent pas à dire qu'appuyer cette campagne-là, c'est carrément de l'antisémitisme. Rien de moins.
Évidemment.
Le Bloc québécois n'a pas de position claire, même si autrefois, il y a longtemps, avant que le mouvement souverainiste ne se gentrifie ou vieillisse, on n'hésitait pas à exprimer sa solidarité envers les peuples opprimés, dont le peuple palestinien, mais ça fait bien longtemps de ça. Pour ce qui est du financement de le UNRWA, donc c'est l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, les conservateurs de Harper avaient retiré leur financement complètement. Financement qui a été rétabli par Trudeau. Les autres partis ne se sont pas prononcés sur ce sujet-là. À propos des colonies illégales en Cisjordanie, appelées aussi implantations en langage technocratique, les libéraux ne les condamnent pas. Donc, c'est un soutien tacite aux politiques d'occupation, annexion d'Israël, mais qui ne va pas aussi loin que celui des conservateurs, qui est ouvertement exprimé sans réserve. Donc, le NPD, les Verts se disent fermement contre le développement de nouvelles colonies. Le Bloc esquive habilement la question en s'en remettant au droit international.
En parlant de laïcité ou de...
En parlant de corridor... Non, ça, c'est pas... En parlant d'autres
de
choses.
De
GML. Non, il faut pas parler de ça.
Non, c'est vrai.
En parlant de laïcité, là, bon. Aucun parti, toutefois, ne revendique le démantèlement de ces colonies-là et la remise des territoires volés aux Palestiniens, ce qui est une position que... qui me semblerait logique du point de vue du droit international, justement. Une autre question intéressante, l'accord de libre-échange Canada-Israël, qui, entre autres aberrations, permet aux produits provenant des colonies illégales de porter le label « Made in Israel ». Attitude variable des partis allant du NPD qui condamne fermement l'inclusion des colonies dans le territoire commercial d'Israël, jusqu'aux libéraux et conservateurs éludant complètement la question. Attitude qui est en contravention complète d'une résolution de l'ONU, qui demande de toujours distinguer Israël de ses colonies. Exécution de civils palestiniens à Gaza par l'armée israélienne. Donc, on se rappelle, entre autres, les immenses manifestations sur les plages. Je crois que ça fait un an, peut-être un peu moins d'un an. Différence notable avec le... Des fois, j'ai trop de notes ici.
Mais il y a trop de choses à dire.
Trop de choses à dire, donc on va essayer de discriminer. Donc, Trudeau, sans condamner officiellement, avait quand même employé le terme inexcusable pour parler de... Ben, on shoot au
des
hasard.
Des jeunes avec armés de slingshots.
Ben, c'est ça. Puis carrément, on y va avec des tu sais, shooter dans le tas. Là, c'était vraiment ça. Donc, Trudeau a dit que c'était inexcusable. Bravo, Justin. Mais il avait évidemment refusé les deux motions, celle des Verts et du NPD. La première qui était d'avoir une enquête pour crime de guerre. Et la deuxième motion de stopper toute vente d'armes canadiennes au régime israélien. Donc, pendant ce temps-là, les conservateurs qualifiaient les manifestants gazaouis de terroristes. Donc, on a vraiment toutes sortes de positions allant du plus raisonnable au carrément délirant. Par rapport à cette question-là de vente d'armes du Canada, pas juste à Israël, mais de vente d'armes en général à l'étranger, donc ça nous mène aux autres enjeux qui ont été évalués par le groupe canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Les autres questions qui sont pas nécessairement reliées au conflit israélo-palestinien. Donc, les libéraux ont signé cette année le traité international sur le commerce des armes. Après des années de refus de Harper, refus qui avait toujours été appuyé par Andrew Scheer, les libéraux, par contre, ont laissé passer plusieurs échappatoires dans l'application de la loi, faille que les autres partis ont souvent dénoncé avec des propositions législatives, mais sans succès. Dans le même rapport, on se penche aussi sur des situations locales un peu plus spécifiques dans le Proche-Orient. Donc, par exemple, les entraves aux droits de la personne vécue en Égypte et en Arabie Saoudite, ou encore sur la guerre que mène l'Arabie Saoudite au Yémen. On constate que le même pattern se répète de façon plus ou moins semblable. Donc, les conservateurs refusent de critiquer quoi que ce soit, puisqu'à leurs yeux, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, surtout l'Arabie Saoudite, constituent des partenaires commerciaux importants et des partenaires qu'on dit stratégiques dans la région. La guerre au Yémen étant menée par l'Arabie Saoudite, on s'abstient aussi de critiquer. Les libéraux condamnent quelquefois, mais sans modifier les politiques internationales du gouvernement. Le cas le plus patent, c'est la vente d'armes au régime saoudien, les fameux « GIPS », comme disait Justin Trudeau, dans son meilleur français. Donc, ça a été constamment dénoncé, cette vente de véhicules blindés-là à l'Arabie saoudite. Il y avait eu des recours judiciaires. Les Verts et le Bloc ont tendance à être relativement vocaux sur la dénonciation des violations des droits humains dans cette région-là et aussi sur cette vente d'armes-là qui avait été polémiste. Mais le seul parti qui se distinguait vraiment dans son acharnement à condamner ça, c'était le NPD. Donc, je tiens à dire bravo à Hélène Laverdière, qui est la députée ici dans Laurier-Sainte-Marie où se trouvent l'UQAM et les studios de choc. Donc, Hélène Laverdière, qui était porte-parole officielle du NPD en matière de politique étrangère. Donc, j'espère qu'il y aura quelqu'un d'aussi articulé qu'elle qui va pouvoir la remplacer dans l'opposition ou qui sera au pouvoir. Peut-être que ce serait une bonne chose, mais les sauveurs, on sait ce que ça donne. Mais je tenais à le souligner quand même. Dernier point évalué par Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, c'est l'islamophobie. Donc, le NPD, encore une fois, se distingue pour ses efforts. Les libéraux ont certaines positions fortes, clairement exprimées. Les Verts seraient plutôt passables et les conservateurs nient le problème, n'utilisent même pas le mot islamophobie. Donc, vous irez voir ce rapport-là de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient sur leur site fr-cjpme.nationbolder.com. On va aller en musique et au retour, Mathieu sera en studio pour nous parler d'actualité. On verra.
International.
International. We'll be right back. Mathieu en studio. Bonjour Mathieu.
Bonjour Simon.
Les actualités internationales.
Sional.
Une gamique, on te laisse vendre ta salade.
Oui, il va y avoir de la super gamique, tu vas voir. C'est pas drôle. Donc, on va parler en premier de migrants, de réfugiés, de demandeurs d'asile. Un sujet qui revient beaucoup à l'émission, autant ici qu'ailleurs, évidemment. Mm-hmm. Avec ce qui se passe au Rojava, avec la Turquie, les Kurdes. On parle du prétexte officiel, entre autres, d'Erdogan, Erdogan, du président turc.
Oui, on voit que t'es au courant de l'actualité, tu prononces bien les noms des dictateurs.
J'essaie avec l'accent, là, oui, l'accent local. Donc, il veut faire un corridor pour pouvoir envoyer des millions de réfugiés syriens dans le nord, dans le désert, dans le nord de la Syrie. Donc, ça, c'est le prétexte. Marie-Ève en avait parlé il y a quelques semaines, d'ailleurs, de ça, des réfugiés syriens en Turquie. Donc, là, je vais vous parler toujours des réfugiés. On est en Europe, on est en France. Il y a quelques semaines, on continue l'initiative en France pour faire de la misère aux réfugiés. Vous en parliez tantôt aussi, toi t'en parlais à Paris. Mais le gouvernement Macron, évidemment, continue à faire toutes sortes de mesures, essaie de signer toutes sortes d'ententes pour compliquer la vie et faciliter les renvois, finalement, des demandeurs d'asile. Ici, on parle d'un accord qui est en train de se négocier ou de se finaliser entre l'Union européenne et l'Afghanistan. Il y a quelques semaines, le Parlement français a adopté une loi portant sur un accord global de coopération entre l'Afghanistan et l'Union européenne, dont il y a un volet important qui porte sur les questions de migration. C'est un accord que tous les pays doivent entériner en Union européenne, mais ça commence à se faire tranquillement et assez vite. Ce volet en particulier, donc qui porte sur les questions de migration, il tend à empêcher ce qu'on appelle en langage bureaucratique le flux migratoire irrégulier. T'aimes bien ces termes-là, Simon?
On parle vraiment de c'est l'histoire qui est en train de se produire. Donc c'est sûr que c'est irrégulier. Il y a des changements dans l'histoire. En tout cas, bref.
Il y a des mouvements, évidemment. Donc ça ouvre la voie à l'adoption ou du moins à des négociations sur les accords de réadmission, un autre terme bureaucratique, entre l'Union européenne et l'Afghanistan. On réadmet les gens d'où ils viennent. Hein? On comprend. C'est comme les accompagnements à la... Comment ils disent ça en France? Les accompagnements à la frontière? Les reconductions à la frontière.
Oui, oui, oui.
Voilà. Sûrement en limousine. Donc, en d'autres termes, une ratification de ce texte donnerait une base légale aux autorités françaises pour ensuite négocier un vrai accord bilatéral avec l'Afghanistan dans le but de pouvoir expulser davantage de migrants. Donc, c'est une première étape, mais ça peut aller vite. Actuellement, il y a un accord qui existe entre l'Union européenne et le gouvernement afghan pour des retours, un autre terme. Mais c'est pas un accord contraignant, donc il n'y a pas de valeur au niveau du droit international, c'est pas officiel. Et peut-être aussi dire que dans l'accord futur, il va y avoir des clauses pour lutter plus efficacement côté afghan contre les départs de ressortissants et contre les organisations de passeurs. Hein, on voit toujours la même argumentation partout au Canada, aux États-Unis, en Australie, c'est toujours la même chose.
Il y a souvent, les passeurs. Souvent, on va utiliser la traite des personnes pour justifier un aspect plus moralement acceptable à ce genre de
tout à fait
d'opération.
Et là, on parle des méchants passeurs et on parle que ça doit être le pays d'où viennent les migrants qui doit faire quelque chose pour l'empêcher. Donc toujours la même rhétorique. Au niveau des chiffres, en 2018, il y a 10 000 Afghans qui ont demandé l'asile en France et les trois quarts l'ont obtenu. Donc, il y a souvent un problème en Afghanistan pour que les trois quarts l'obtiennent, malgré qu'on sait que c'est compliqué. Quant aux déboutés, il y a eu 11 expulsions par année depuis 3 ans d'Afghans en dehors du territoire français. Donc, on voit qu'il y en a qui veulent accélérer le rythme. Donc, les responsables du projet de loi annoncent vouloir augmenter les renvois dès 2019 et notamment les retours volontaires. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'une semaine avant ce projet de loi-là qui a été adopté, l'État français avait élevé l'aide accordée aux migrants afghans souhaitant rentrer chez eux par eux-mêmes. On parle de 2 500 euros par personne si elle décide de rentrer par elle-même chez elle. Donc, l'incitatif est là. Donc, évidemment, les groupes comme Amnesty et la CIMAD s'inquiètent de ce projet de loi-là, de ce futur accord-là, qui pourrait faire faciliter les renvois. Dans un pays, on s'entend, qui est qualifié par l'ONU de catastrophique au niveau de sa situation géopolitique, sociale, économique, au niveau des droits de la personne. Et on parle de personnes qui retourneraient en Afghanistan, seraient pas capables de retourner dans leur région d'origine, évidemment, parce que c'est la guerre, et aussi qui ont des menaces parce qu'ils sont partis, leur famille a été menacée, ils étaient pas nécessairement du bon côté dans certaines régions, donc c'est évidemment très dangereux. Et le jour où il y a eu l'adoption de ce projet de loi-là au Parlement français, ben il y a eu un attentat qui a fait des morts, évidemment, il y a eu des attentats dans plusieurs régions de l'Afghanistan où il y a eu des morts. Donc, c'est intéressant de suivre ça. Ça se passe en France. C'est pas une grosse nouvelle, mais on voit un peu...
Non, mais c'est quoi la prochaine étape? Ils vont mettre l'Afghanistan sur la liste des tiers pays sûrs, tu sais, je dirais.
Bonne réflexion, Marie-Ève.
Mais moi, je me demandais, tu disais tantôt qu'ils seront pas nécessairement renvoyés dans leur région d'origine, mais ils vont être quoi, dans des camps? Ou...
Ben, ils vont être, c'est par avion, tu te retrouves dans la capitale qui est Kaboul, puis tu te débrouilles après pour...
Ah, d'accord.
Ouais, okay. C'est comme ça que ça fonctionne, les renvois en général. Ils te renvoient pas dans ton village précis, ils te renvoient dans la capitale, à l'aéroport, puis après ça, c'est bye-bye.
Même si c'est des routes qui sont minées pour te rendre...
Voilà.
on s'en fâchera pas d'un détail. Hein.
Voilà, Simon, faut être efficace. Donc, je change complètement de sujet pour mon deuxième sujet, Brésil. On n'a pas beaucoup entendu parler ici non plus, mais la guerre est vraiment prise entre les dirigeants autochtones brésiliens, qui appellent plus indigènes là-bas, et le président Bolsonaro. C'est vraiment la guerre. Monsieur Bolsonaro, j'aurais pas l'appeler monsieur, là, Bolsonaro, le ticoun Bolsonaro a fait un discours devant l'ONU, comme tous les autres présidents ou premiers ministres dirigeants de pays, il y a quelques semaines à l'Assemblée générale, l'ouverture de l'Assemblée générale, et ça a été très très mal reçu au Brésil. Ça a été qualifié d'agressif même par les médias plus mainstream du Brésil. Et il a visé en particulier un chef indigène qui s'appelle Raoni, qui s'appelle dans les faits Raoni Metuktiri, qui a 87 ans et qui a comme accusé d'être un peu le leader de ceux qui contestent ses politiques, entre autres en Amazonie. Donc, dans une trentaine de minutes, Bolsonaro a défendu sur un ton martial la souveraineté du Brésil sur l'Amazonie, en pointant du doigt l'attitude coloniale de certains pays, dont la France.
Remarque qu'il n'y a pas trop tard, là-dessus, là, mais bon.
Oui, mais disons que comment il s'en sert, cet argument-là, c'est à voir.
Mais c'est parce que lui-même a une attitude très coloniale.
Mm. Ben, la suite, je vous la lis. Très souvent, certains leaders indigènes, dont le chef Raoni, sont instrumentalisés par des gouvernements étrangers dans la guerre de l'information qu'ils mènent pour faire avancer leurs intérêts en Amazonie. Mm. Et il a déclaré le monopole du chef Raoni sur l'Amazonie est terminé. Il a dit ça à l'ONU quand même, il faut le faire. C'est la politique interne, c'est quand même assez particulier. Donc, ceux qui le critiquent parle d'un président fake news paranoïaque, multipliant les contre-vérités, niant la réalité dramatique de l'accélération de la destruction de l'Amazonie. Il prétend qu'il défend le Brésil contre les velléités des chefs étrangers, à vouloir augmenter la surface des terres indigènes protégées au Brésil. Mais dans les faits, la Constitution oblige l'État brésilien à chaque année à protéger de plus en plus de terres. C'est dans la Constitution. Et les chefs autochtones ou les communautés autochtones disent que c'est dans l'objectif de faire face au fait que le gouvernement ne fait pas ce travail-là, qu'ils font appel à des appuis internationaux. Donc, c'est assez logique. Et en plus, ça, c'est le bout du bout, il avait amené une femme autochtone qui s'appelle Yasni Kalapalo pour dire qu'il avait l'appui des Autochtones. Il l'avait amené à l'ONU avec lui sur la tribune. Et il a même lu une fausse lettre de soutien d'un groupement d'agriculteurs indigènes que tout le monde a dit après que ça n'existait pas, ce regroupement-là. Fait que c'est quelque chose, quand même. Et là, les gens ont dit on croyait pourtant être revenu à l'époque coloniale quand on avait des exhibitions d'indigènes avec une image dégradante, fausse et raciste. On sort quelqu'un puis on dit qu'il nous appuie. Donc, il a même fait ça à l'ONU, ça je savais pas du tout. Et il a fini en disant que les indigènes, dit nos Indiens au Brésil, sont des hommes de caverne, maintenus en l'État avec le soutien d'ONG étrangères. Ce sont des pauvres vivant sur des sols immensément riches. Donc, ça a été sa conclusion de son discours. Fait qu'évidemment, ça a très mal réagi. Le chef en question, qui a 89 ans, pas 87, il a dit que, ben, qu'il devait partir, qu'il devait plus être au pouvoir. Avant que quelque chose de grave n'arrive. Lui, il a défendu qu'il faisait son combat pour la préservation de l'environnement. Un autre leader indigène brésilien a déclaré qu'il n'a pas peur de Bolsonaro, mais il a peur de la destruction qu'il peut causer et qu'il veut nous voler nos terres de plus en plus. Et le collectif brésilien de leaders indigènes a parlé d'une attaque raciste et génocidaire contre les Autochtones du Brésil. Et on parle du 24 septembre comme un jour triste, marqué par l'entrée du Brésil dans les ténèbres de la diplomatie internationale, de la lutte contre le réchauffement climatique et de celle de la préservation du monde vivant. Si ça vous intéresse, la coordination des organisations autochtones de l'Amazonie brésilienne, le COIAB, a sorti une déclaration publique pour dénoncer les propos de Jair Bolsonaro. On peut la retrouver sur le site du CEDAL, le Comité pour les droits humains en Amérique latine. Et ça, cette coordination-là, ça regroupe 180 peuples, 430 000 communautés, 300 organisations et sur 430 territoires. Donc, c'est assez impressionnant.
Aucune légitimité.
Non, c'est ça, évidemment.
Évidemment.
Mais il a amené une jeune femme qui a utilisé pour justifier son discours et sa rhétorique. Et en terminant, peut-être, j'ai trois petites citations de Bolsonaro, nos citations racistes, évidemment. En 98, il était encore dans l'armée, il n'était pas politicien. Il se dit...
C'est un jeune Bolsonaro. Là.
Oui, dans la quarantaine, j'imagine.
Et qui devait être beau.
Quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux, ils ont exterminé leurs Indiens. Hein? C'est assez clair.
Il a vraiment dit ça.
Il a vraiment dit ça dans un journal en 98. En 2018, quelques mois avant d'être élu, si je deviens président, il n'y aura pas un centimètre supplémentaire de terres autochtones protégées. Et en juin 2016, on revient un petit peu en arrière, cette politique unilatérale de démarcation des terres autochtones par le pouvoir exécutif cessera d'exister. Sur toute réserve que je peux réduire, je le ferai. C'est une bataille que nous allons mener contre l'ONU. Donc, quand on regarde ces déclarations passées, on voyait ce qui s'en venait, évidemment. Mais on soupçonne pas, mais vraiment, au Brésil, ça a fait une commotion. Le chef Raoni, c'est celui qui a la lèvre inférieure très allongée. On l'a vu avec Sting à l'époque. Ça fait des années qu'il est là.
C'est le même individu?
Oui, c'est le même individu qui se bat il y a 89 ans, il se bat depuis 60 ans pour les terres autochtones. C'est un leader historique. Donc, s'attaquer à lui, c'était pas la meilleure idée de la part de Bolsonaro non plus, mais comme il veut aller jusqu'au bout de sa logique et qu'il veut encourager l'agro tourisme industriel, l'élevage industriel, puis bon, on sait aussi l'extraction massive, donc qui va aller jusqu'au bout contre les Autochtones, mais c'est une guerre qui va se dérouler dans les prochains mois, qui va être assez féroce, je pense.
Mais désacraliser ces figures très importantes, figures morales qui veulent protéger l'environnement, qui sont là depuis toujours, ça fait partie des stratégies probablement aussi pour casser le mouvement environnemental.
Tout à fait, et autochtones, évidemment, parce qu'ils sont très nombreux au Brésil, c'est des millions de personnes, et en plus, en disant qu'ils sont à la solde des pays étrangers, ben ça alimente son nationalisme, évidemment, primaire, là. Son discours nationaliste primaire.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était très, très encourageant, tout ça. Dans quelques instants, c'est Marie-Ève qui va être de retour avec, je crois, des mauvais coups, donc il va falloir qu'elle se force pour battre ce que Mathieu vient de dire. À tantôt. Marie-Ève, t'es de retour en studio. Un peu la suite de ton blog de tantôt. T'avais fait les bons coups de la semaine. Là, tu nous parles de mauvais coups.
Oui, c'est un peu l'envers de la médaille, en fait. Et on change aussi de continent. C'est pas pour dire qu'en France, il se passe des bonnes affaires, puis qu'ici, on est juste comme...
On est
poche et raciste. Ouais. Mais le prochain bloc tend à montrer ça. En tout cas, c'est un peu triste, mais bon, c'est la dure réalité, mesdames et messieurs.
Oui.
Alors, premier mauvais coup, vous en avez sûrement entendu parler. Le 7 octobre dernier, imaginez-vous donc, on apprenait que le SPVM est roulement de tambour raciste.
Ben non.
Oui, grosse nouvelle. Après des années de lutte pour la justice de la part de la famille de communautés de communautés racisées ou marginalisées dont un membre a été victime de brutalité policière et dont plusieurs sont tombés sous les balles du SPVM, ça y est, c'est confirmé.
Fake news.
Le racisme est chose courante dans les rangs des forces de l'ordre de la métropole. Et là, c'est pas le COBP, là, qui le dit, non, mais le SPVM lui-même, OK, par un rapport qu'il a lui-même commandé à trois chercheurs indépendants. C'est peut-être un peu ça, la nouvelle, tu sais. On y apprend, entre autres, que les Noirs, les Arabes et les Autochtones sont beaucoup plus susceptibles d'être interpellés par la police de Montréal, alors qu'ils ne constituent que 10% de la population, les Noirs ont fait l'objet du quart des interpellations du SPVM entre 2014 et 2017. À titre comparatif, Ce chiffre atteint environ 40% chez les Blancs, qui représentent plus de 65% de la population. Donc, c'est assez clair là qu'il y a...
C'est très clair, c'est comme tu dis.
C'est disproportionné. Et pendant la même période, les interventions policières ont quadruplé auprès des personnes d'origine arabo-musulmane et augmenté de presque 7 fois chez les Autochtones. Et... autre grosse nouvelle, les femmes autochtones seraient d'ailleurs particulièrement ciblées. Selon l'étude, ces dernières courent 11 fois plus de chances de se faire interpeller que les femmes blanches. Et de manière générale, un noir ou un autochtone aurait environ 4 fois plus de chances d'être interpellé qu'un blanc. Les auteurs du rapport sont catégoriques. Il s'agit d'une forme de discrimination systémique. Jusqu'ici, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Mais là où ça dérape, c'est qu'avec la réaction de la direction du corps policier. Ainsi, le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a déclaré, et je cite, « On n'a pas de policiers racistes, on a des policiers qui sont des citoyens qui nécessairement ont des biais comme tout citoyen peut avoir. »
Et un biais, ça peut être du racisme, non?
Ma foi, que dire?
Moi, c'est une façon très alambiquée de...
On pourrait peut-être lui répondre ceci. La différence, c'est que vos citoyens sont non seulement en position d'autorité, mais ils sont équipés d'armes létales. Et disons qu'ils ont plutôt tendance à s'en servir. Sinon, ben histoire d'en rajouter encore une couche, si c'était possible.
N'en rajoutez pas, la couche est pleine.
le conseiller de ville de Montréal-Nord, qui est membre de Ensemble Montréal et qui est aussi vice-président de la commission sur la sécurité publique, Monsieur Abdelhak Sari, d'origine marocaine, faut-il le préciser, s'est vu refuser l'accès à la conférence de presse où le SPVM dévoilait le rapport. C'est sans doute parce que le SPVM a jugé que M. Sari est un citoyen et que, comme tout bon citoyen, il a nécessairement des billets contre le SPVM.
Forcément. Mais est-ce que M. Caron, c'est ça son nom, le directeur du SPVM, est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a fait une déclaration?
De la part des déclarations alambiquées, comme à l'habitude, non, c'est venu de la bouche de ses porte-paroles en communication, là. Voilà.
Ben, en fait, mauvais coup, effectivement, t'as réussi à...
Pas pire, oui. Puis, bon, comme deuxième mauvais coup, on le sait, hein, les campagnes électorales sont souvent un puits sans fond de déclarations douteuses, loufoques et tout. La palme dans la campagne fédérale actuelle revient sans conteste au Bloc québécois, dont 4 candidats ont tenu ou partagé des propos anti-islam, oh surprise, sur les médias sociaux entre 2013 et 2019. Quelques exemples. J'en ai deux, en fait, parce que c'est les plus parlants.
Tu aurais pu en avoir plus que ça.
Oui, il y en avait plus. Caroline Desbiens de la de Beauport, écrit sur Facebook en 2013 qu'il fallait faire avancer la loi sur la laïcité du Québec pour éviter, je cite, le pire. Soit que dans quelques années, vos filles, petites filles et arrière-petites filles soient obligées de se mettre un voile sur la tête pour aller faire des courses chez IGA sous peine de se voir jeter en prison. Ben oui, c'est ça qui arrive quand on va chez IGA. Et en 2016, elle a aussi publié au moins 2 messages sur Facebook en appui à Marine Le Pen. Où on a encore l'Isabelle Nitois de Marc-Aurel Fortin, qui a partagé en 2016, toujours sur Facebook, un artiste de Boris Lelay, un blogueur et militant d'extrême droite française. Dans l'article qu'elle a partagé, on peut notamment lire cette affirmation « La consanguinité massive dans la culture musulmane pourrait avoir causé des dommages virtuellement irréversibles au socle génétique musulman, notamment des dégâts majeurs sur leur intelligence, leur santé mentale ou leur santé tout court. »
C'est très joli, mais en tant que Québécois, je ne ferais pas de leçon de morale sur la consanguinité, peut-être.
Peut-être pas. Et le pire de tout ça, parce que évidemment on peut en rajouter, en réaction, le Bloc s'est quand même fait rassurant. Les candidats partagent les valeurs et le programme du Bloc québécois. Pour le reste, nous laissons les électeurs en juger. en ajoutant un peu plus tard que si ces candidats ont partagé des idées contraires aux valeurs et au programme du Bloc dans le passé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ouf, on a eu peur.
Oui, merci de nous rassurer, Marie-Ève. On va aller en musique. Nous sommes toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca.
L'art connu la pousse qui fait mousse. Quand les vandales se redéploient, les vendus se couchent. Allume la mèche d'une dynamite héréditaire. Je suis ce chroniqueur qui ne répond pas à leurs critères. Je t'égare, je mets les pieds, parano, j'ai mes repères. Il n'est pas question de plier quand les tons se resserrent. J'attends le sabotage, je veux gripper la machine, imprévu le coup du sort, faire valser des gorges, dégraisser le port, puis redresser les chines, inverser la vapeur et voir la peur changer de bord, d'urgent crier. Et ça picore, ça roucoule, sa vie enfermée, tranquille, comme une boule. Faudrait que le chien, moi, s'arrête de grogner, qu'il rampe, se bouge, transit le peur de se faire cogner. Faudrait qu'il fasse le beau pour un morceau de sucre, qu'il lève la patte quand on lui demande, sans montrer les crocs, erreur de formatage. Le mien refuse le dressage, il ne peut voir au fond de ses yeux qu'un mauvais présage. Comme un étrange mélange, un sulfure au dosage, au fond de ses yeux, que de la colère partant de rage. Et j'attends le sabotage, je veux gripper la machine, imprévu le coup du sort, faire valser le décor, je veux dégraisser le port, puis redresser les chines, inverser la vapeur et voir la peur changer de bord, urgent crier. Sortir du silence comme d'un abcès, trouver l'écho, laisser la folie exploser, ignorer la voix, aller droit à l'opposé, écouter parler le fracas, l'air de rouge.
On écoutait parler le fracas du groupe français Le Peuple de l'Herbe. J'ai oublié de nommer une chanson qu'on a entendue un peu plus tôt. Le groupe s'appelle Hooray for the Riff Raff. La chanson s'appelait Rickon Beach. Et est-ce qu'on est prêt pour aller à la Minute Coloniale? Allons à la Minute Coloniale. Les Apatrides Anonymes vous présentent la Minute Coloniale. Le petit noir en plâtre apporte une touche amusante et éducative à nos aménagements paysagers. Qu'il tienne une canne à pêche ou une lanterne, il nous en apprend beaucoup sur notre histoire et surtout sur celle de nos bons voisins du Sud, les États-Unis d'Amérique, où le petit garnement de couleur accueille le visiteur avec son sourire aux lèvres généreuses. Le premier à installer un petit noir à l'entrée de sa résidence fut nul autre que George Washington, brillant militaire et premier président américain. En effet, lors d'une bataille décisive de la guerre d'indépendance, il somma l'un de ses jeunes esclaves, prénommé Joko, de tenir une lanterne en un point stratégique pour servir de point de repère aux armées, et ce jusqu'à nouvel ordre. Malheureusement, ce brave petit garçon mourut de froid, et lorsque George Washington le retrouva au petit matin, il fut ému de voir le défunt garçonnet tenir toujours à la main sa lanterne allumée, fidèle aux ordres et au poste. Ainsi, le président fit couler une statue du valeureux Joko, tenant lanterne à la main, et l'installa devant Mount Vernon, sa résidence de plaisance aux environs de la capitale. Ainsi fut lancée la mode du petit noir en plâtre, plus communément appelé l'âne jockey, mode qui gagnera même nos modestes faubourgs et campagnes du Canada français pour les siècles à venir. L'on dit aussi que cette sympathique effigie de l'afro-américanité a même contribué à affranchir les Noirs de l'esclavage, puisque leur présence, accompagnée de certains indices visuels le long des chemins, servait à indiquer les refuges ainsi que les directions des routes à emprunter, ce qu'on a appelé le chemin de fer clandestin, pour se rendre vers le nord, donc pour enfin goûter la liberté. Le petit nègre en plâtre trônant aujourd'hui dans la belle rocaille paysagère du terrain avant du Split Level de votre beau-frère constitue donc un sympathique signe de bienvenue, mais surtout un vibrant hommage à la démocratie et à la libération de ces milliers d'esclaves noirs qui purent enfin vivre dans un pays libre, juste et à l'abri de toute discrimination. C'était la Minute Coloniale, présenté par les Apatrides Anonymes. De retour en studio, Simon au micro, je vous parle avec ma voix normale, sans accent, qu'on a déjà dit jésuite. Plusieurs mises au point s'imposent après cette Minute Coloniale, que j'espère aussi insolite qu'éducative que les autres. Donc on va essayer d'identifier ce qui relève de la légende, le vrai, du faux. D'abord, oui, c'est vrai que George Washington, qui avait des esclaves, avait aussi une statue devant sa résidence en Virginie, statue non pas en plâtre, mais en fer, d'un jeune noir tenant une lanterne. La légende de ce garçon mort de froid pendant une bataille n'est pas vraie d'après la plupart des historiens, puisque les registres de l'époque sont bien conservés, le nom de Joko Graves apparaît nulle part, puis une histoire semblable non plus n'apparaît nulle part dans aucun journal de guerre ou journal de bataille, donc... Ce qui est vrai, c'est que cette mode d'avoir une statue de garçon noir dans une posture de personnel domestique, comme tenant une lanterne ou très souvent un anneau en fer où on accrochait les chevaux, ça c'est vrai que ça remonte au 18e siècle, à l'époque de George Washington et de la guerre d'indépendance. Maintenant, cette histoire des land jockeys qui contenait des codes pour aider les esclaves noirs à naviguer sur le réseau de routes clandestines qu'on appelait le Underground Railroad, ça reste difficile à démontrer. Beaucoup d'historiens jugent qu'il y avait effectivement des messages cryptés le long des routes. Des rubans de couleur, par exemple, qui pouvaient indiquer des directions, un drapeau qui aurait pu indiquer qu'on offrait le gîte ou le repas. Mais les land jockeys, les petits noirs en plâtre, étaient vraiment l'apanage des riches blancs. Et les noirs de l'époque considéraient déjà cette figure-là comme raciste. Et non, on n'habillait pas un petit noir en plâtre de telle façon, avec un t-shirt rayé ou avec tel objet dans la main, pour envoyer des messages cryptés aux esclaves qui cherchaient à fuir vers le nord. Toutes des théories jugées vaseuses, probablement pour atténuer l'aspect raciste de ces petites statues ridicules, parce que oui, c'est raciste. Donc ça a vraiment fait son apparition sur des propriétés sudistes où on trouvait des esclaves. Donc je vois pas pourquoi on aurait voulu se servir de cet item-là pour favoriser la fuite des esclaves. Donc,
est-ce que ça aurait été un truc un peu douteux?
Ben, c'est douteux. Mmh. Il y a quelques historiens qui ont parti ça, des historiens blancs, évidemment, puis les historiens noirs ont fait arrêter, s'il vous plaît. Là. Mmh. De toute façon, ça représente le noir de manière très stéréotypée, avec une peau très foncée, un regard un peu ahuri et des toujours très grosses lèvres, toujours dans des positions inférieures en costume de personnel domestique. Les petits noirs de jardin, c'est toujours manufacturé et vendu, notamment aux États-Unis. Donc, j'ai fait des petites recherches avec comme mot-clé « statue de jardin » dans les sites des grandes surfaces en rénovation au Québec, et heureusement, j'en ai pas trouvé. Sur des sites de trucs usagés comme Kijiji, j'aurais pu en acheter si ça m'avait tenté. Si vous sortez de la ville, si vous sortez de Montréal, ça se peut que vous en trouviez aussi si vous roulez pas si longtemps que ça. L'Australie a aussi son petit noir de plâtre, c'est le Concrete Aboriginal, ou en français, l'aborigène de ciment, lui aussi représenté de manière caricaturale. Donc sur ce, toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca, on va retrouver Marie-Ève dans quelques instants avec l'agenda antiraciste.
Christif, le fun punk pis comme avant, il fait juste moins deux pis j'ai fait en crise. C'est comme 100 ans de chagrin médiéval juste parce que t'existes un peu. Griffif, ton champagne est froid, t'es comme devenu un glacier. Des fois ça prend du sang, pas juste du colorant. Une comédie sentimentale pornographique.
De retour aux Apatrides Anonymes, Marie-Ève au micro pour le calendrier antiraciste. Merci Simon pour ces moments à la fois éducatifs et d'une, ma foi, très fleurie. oui, de ces minutes coloniales.
Oui, on peut sortir notre vocabulaire boc-côtien, hein,
oui,
ça fait du bien.
Effectivement. Écoutez, bon, à la dernière émission, on vous avait dit là, que ça paraissait que c'était la rentrée parce que les événements se multiplient. Ça aurait pu être le cas encore cette semaine, il y en avait beaucoup. J'ai dû donc faire des choix parfois déchirants. Alors, je commence donc avec la 10e vigile annuelle commémorative pour les victimes de bavures policières. L'origine de l'événement, le 22 octobre 2010, les familles et amis de 6 victimes de bavures policières se sont réunies sous la bannière de la Coalition Justice pour les victimes de bavures policières lors d'une vigile commémorative à Montréal. Cette journée-là, le 22 octobre, a été choisie parce que c'est une journée nationale de lutte pour les victimes de bavures aux États-Unis depuis 1996. Donc, 9 ans après la vigile, malgré l'entrée en fonction du Bureau des enquêtes indépendantes en 2016, rien n'a changé. 3/4 des enquêtes du BEI sont d'anciens policiers qui enquêtent même parfois sur le corps de police pour lesquels ils ont travaillé. En plus, le BEI dénonce lui-même le fait que les policiers et leurs avocats refusent de collaborer avec ces enquêtes. Et malgré plus de 130 enquêtes ouvertes par le BEI, dont plus de 70 pour des décès, aucun policier n'a été accusé au criminel. Donc, rendez-vous 22 octobre à 17h ou la Fraternité des policiers et policières de Montréal, métro Laurier, sortie Saint-Joseph. Ensuite, un atelier « Comment reconnaître un éco-fasciste quand on le croise » et autres histoires de lutte pour une réelle justice climatique. J'ai trouvé ça très sympathique comme titre.
En fait, éco-fascisme, c'est un terme que j'avais jamais entendu.
L'éco-fascisme, c'est cette idéologie qui mêle prédictions apocalyptiques et suprématie raciale et qui prône des solutions clairement génocidaires aux problèmes environnementaux. Donc, ce sera l'occasion, comme pour des gens comme toi, Simon, qui ne connaissent pas cette expression, d'en apprendre plus sur les symboles et les arguments mis de l'avant par cette idéologie. Mais on va aussi y aborder comment l'extrême droite en est venue à intégrer historiquement la question environnementale à son argumentaire et comment aussi les militants et militantes pour le climat ont, quant à eux, multiplié les efforts pour adopter des positions antiracistes et féministes. La présentation sera suivie d'une discussion. L'atelier comme tel est en anglais, mais les échanges pourront être bilingues. Ça se déroule le 25 octobre à 19h au Frigo Vert qui est sur la rue McKay, métro Guy Concordia. Vous pouvez trouver tous les détails sur la page Facebook du Frigo Vert. Dernier événement dont je vous parle aujourd'hui, c'est une contre-manifestation sous le thème « Ouvrez les frontières, arrêtez les racistes pour la liberté de mouvement et contre l'extrême droite raciste ». C'est une manif, comme je le dis, une contre-manif en réponse à une autre manifestation organisée par le groupe de sécurité patriotique. On le devine par le nom que c'est un groupe d'extrême droite nationaliste. Donc, autre manif à la frontière de la colle, près du chemin Roxham. le rassemblement, pardon, a lieu ce samedi à 11h à la colle. Je sais qu'il y a il devait y avoir des bus qui partent de Montréal à 9h30 pile. Évidemment, ils disent pas publiquement le lieu. Donc, si vous voulez plus d'informations pour le transport et les lieux de rassemblement précis, tous les détails, vous pouvez aller sur le site web de Solidarité sans frontières.
Merci beaucoup à Mathieu et Marie-Ève pour leur recherche, leur chronique, leur présence au micro, à la console. Merci à vous qui nous écoutez.
Merci à Simon pour l'animation.
Fait plaisir. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca ou sur notre site apatridesanonymes.info. On a aussi une page Facebook que vous pouvez trouver facilement, ainsi qu'un courriel apatridesanonymes@resist.ca. On sera là dans deux semaines avec vous, mais entre-temps, on va être à la manif du 27 octobre. Grande manifestation contre le racisme, 27 octobre, Métro Parc, à 14h.
Où on sera, et on devrait d'ailleurs vous présenter un reportage sur cette manif-là lors de notre prochaine émission.
Oui, effectivement, on va essayer de faire des captations, des entrevues sur place, et on fera un montage de tout ça. Dans quelques instants, ça va être l'émission Le Pentagone sur choc.ca, et nous, on va terminer en musique avec une pièce de Macy Gray qui s'appelle « White Man ».
City, Catanoa.